Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour Édouard Manet, Velázquez était le peintre des peintres. Son tableau le plus connu, Las Meninas, que vous voyez sur l'écran, le témoigne pleinement. C'est un tableau, une peinture sur la peinture, qui fait voir la toute dernière phase de la carrière de ce peintre de cour à Madrid, en train de se représenter lui-même en peignant dans la compagnie de certains personnages de la famille royale, avec cette présence encore aujourd'hui mystérieuse du roi et de la reine dans le miroir au fond de la scène. Néanmoins, les débuts de Velázquez furent plutôt modestes. Il était né à Séville en 1599 d'un père notaire et les toutes premières œuvres le montrent en effet à l'aise avec des scènes de genre, des natures mortes, appelées à l'époque des bodegones. Le genre qui était le plus bas sur l'échelle académique de la manifestation artistique. Son maître et après ça son beau-père Francisco Pacheco en parle dans son traité de la peinture, parle des bodegones, parle de Velázquez et a une phrase assez célèbre. Il dit bon, ce sont des tableaux de bas niveau dans l'échelle académique, mais lorsqu'ils sont peints comme mon genre, c'est-à-dire comme Velázquez le fait, alors ça change. Et en effet, si on regarde les détails, on voit comment ce peintre réussit dans ce genre apparemment mineur d'introduire des subtilités de la représentation picturale, les reflets, les ombres, la transparence d'un verre dans ce aguador de Séville, œuvre célèbre qui jouait à un certain moment aussi le rôle de carte de visite pour ce jeune peintre sévillan qui va chercher à un certain moment sa chance à Madrid. Il porte ce tableau avec lui pour le montrer de quoi il était capable. La première tentative d'être introduit à la cour, c'était ça son but, échoue. On est en 1622. Le roi n'a pas le temps pour le recevoir, pour regarder ses tableaux, et encore moins pour lui poser. C'était le but du jeune Velázquez de devenir peintre, portraitiste du roi. En 1623, il tente à nouveau sa chance avec l'appui du comte Duc Olivares. Et le 30 août 1623, il réalise, dans un seul jour, dit Pacheco, le portrait du jeune monarque, peut-être celui-ci. Le voilà nommé peintre du roi. D'autres portraits vont s'en suivre et pour un certain temps, Velázquez sera engagé dans la création de cet imaginaire royal. Il sera peintre de la haute société courtoise, un programme iconographique sans doute un peu monotone, mais qui lui donne quand même une base matérielle notable. Il est bien installé à la cour, on sait qu'il a un salaire de 20 ducados par mois. En 1627, il devient huissier de la chambre. En 28, un document atteste qu'il recevait une ration de victuailles égale à celle des barbiers du roi. Alors, vous voyez un peu l'intégration sociale aussi d'un peintre qui aboutit justement à une position forte à la cour, mais qui est tout à fait semblable à celle du barbier royal, pas plus. Il reçoit des commandes importantes, mais il rêve d'Italie. Et en effet, il s'y rend pour la première fois en 1629 avec l'accord du roi. Il accompagne le marquis Spinola, qui était le grand capitaine des armées des Flandres, vainqueur de Breda. auquel Velázquez rendra un hommage plus tard dans une célèbre toile que je vous montre ici, la reddition de Breda. Spinola étant le personnage, le général qu'on voit à droite avec ce geste de magnanimité vis-à-vis du vaincu. C'est un tableau, mais c'est tardif, on est dans les années 34-35. On peut peut-être voir, certains l'ont vu, un portrait caché, un autoportrait caché de l'artiste lui-même. Mais pour l'instant, et je reviens à 29, donc, le voyage en Italie, accompagné par Spinola. Pour l'instant, en étant 29, il commence donc ce voyage tant rêvé dans la péninsule. C'est un voyage qui n'entre pas seul, ça c'est important. Il est accompagné, ou il accompagne plutôt, un représentant important du pouvoir. Et l'itinéraire du voyage est assez significatif. Alors, je vous montre cette carte que je dois à Salvatore Pons, qui a mis ensemble tous les documents du voyage ou des voyages, parce qu'on aura deux voyages donc, de Velázquez en Italie. Alors, il débarque à Gênes. De Gênes, il va à Venise. Il descend à travers Ferrare, Cento à Bologne. Une étape à Loreto, puis Rome. Ce sera à Rome qu'il va passer le plus de temps, avec un bref séjour à Naples et retour à Rome. Pendant tout ce voyage, les autorités italiennes le regardent avec un peu de méfiance. Il y a des documents qui disent que ce peintre est évidemment un espion. Qu'est-ce qu'il fait ici, chez nous? Il est venu pour regarder, pour faire ses rapports de ce qui se passe en Italie, pour informer Sa Majesté royale. Pour Palomino, qui est, disons, le Vasari espagnol, donc celui qui va écrire les vies des peintres et aussi la vie de Velázquez, pour Palomino, il s'agissait premièrement d'un voyage d'études, mais d'un voyage d'études de ce jeune peintre sur un fond d'inquiétude politique. Et Palomino nous dit aussi ce que Velázquez a vu et apprécié le plus pendant ce premier voyage dans la péninsule. Il nous parle du Tintoret, de la gloire ou le paradis du Tintoret qu'il avait admiré à Venise, d'autres tableaux du Tintoret aussi, comme la Seine. C'est un tableau important. Il y a d'autres documents qui montrent en effet que Velázquez a été très attentif à certaines solutions concernant la composition qui venait du Tintoret. Il en fait une copie d'ailleurs, vous la voyez à droite. Donc il a été sans doute impressionné par la façon du Tintoret de représenter l'espace avec ses différents niveaux de réalité, un niveau de réalité ou d'image qui est presque saillant, donc le tout premier plan, plus puis une perspective très profonde et un tout dernier plan encore plus profond. Il s'agit ici probablement d'une expérience assez importante qui va marquer sa sensibilité artistique, puisqu'on trouve ou on retrouve quelque chose de cette scénographie spatiale dans une des dernières œuvres de Velázquez, La Cilanderas, qui reprend sans doute avec d'autres instruments, avec d'autres intérêts, quelque chose de cet échelonnement en profondeur de l'espace pictural. Toujours Palomino nous dit qu'il dessina beaucoup. Il aurait eu un calepin avec lui et on sait peu de Velázquez comme dessinateur, hélas. On sait aussi qu'une fois arrivé à Rome, il loge au Vatican, premièrement, protégé par le cardinal Francesco Barberini. Et les biographes nous disent aussi ce qu'il a visité, ce qu'il a vu. Alors notamment, il fait un peu, si vous voulez, du tourisme, mais du tourisme artistique de haut niveau. Michel-Ange, la chapelle Sixtine, avec le jugement dernier, le plafond. Il s'arrête devant les Sibylles et les prophètes. Raphaël, la dispute du sacrement, ou le même peintre, le Parnasse. Donc, pour ce peintre sévillan, andalou, donc, espagnol, ce contact direct avec les grands chefs-d'œuvre de l'art italien ont été quelque chose de fondamental. Et en effet, pendant son séjour, qui dure plusieurs mois à Rome, Velázquez commence à s'exercer à quelque chose qu'il n'avait pas abordé jusqu'à présent. Vous avez vu, première phase à Séville, les bodegones, donc les scènes de genre, puis les portraits des rois et de la famille royale. Il s'exerce maintenant à Rome dans ce qui était le grand genre pictural, la peinture narrative, c'est-à-dire la peinture d'histoire. C'est ici, en toute probabilité, qu'il réalise cette toutes premières expériences dans ce genre, la tunique de Joseph ou la forge de Vulcain, la voilà, où il se confronte avec l'art de la narration picturale, mais en même temps avec la représentation du corps humain, de la nudité du corps humain, du langage des gestes et du langage physionomonique. Il apportera ses tableaux avec lui en Espagne pour les offrir au roi, un peu comme une attestation de ses labeurs italiens. Mais le résultat le plus original de son séjour romain sont les deux petits paysages, les vues des jardins de la Villa Médicis. Pardon, ici il y a des détails que j'avais préparés justement pour faire voir la façon dont ce peintre à Rome s'exerce dans tout ce nouveau art avec des expériences. Vous voyez aussi la lumière, le métal incandescent, le langage des gestes et des regards. L'éclat des armures, etc. Bon, mais je disais tout à l'heure que le plus originel de son séjour romain sont les deux paysages de la Villa Médicis. Pourquoi je dis que ce sont les plus originels? Donc, ce n'est pas moi seulement qui le dis. La peinture d'histoire, la peinture narrative, depuis la Renaissance, en Italie, c'était quelque chose d'évident et beaucoup de peintres se sont exercés. Par contre, le paysage était un genre nouveau, en train de naître. Et Velázquez apporte quelque chose de très important. Premièrement, une sensibilité tout à lui, toute personnelle, de la représentation de la nature jusqu'au point où on se demande si ces tableaux ont été faits justement pour être donnés, vendus ou pour soi-même, ce qui est probablement le plus plausible. La datation est aussi un problème de ce problème de ces deux tableaux. Comme je le dis, il y aura après quelques années un second voyage de Velázquez à Rome. Et il y a certains historiens de l'art qui placent ces deux tableaux pendant le second voyage. Il y a des détails techniques qui montrent plutôt qu'à cause de certains instruments, de certaines utilisations de la couleur, de la matérialité de la toile, ces deux tableaux ont été quand même réalisés en 29, donc pendant le tout premier le tout premier voyage. Les tableaux sont restés dans la possession de Velázquez, ce qui montre encore une fois ce regard personnel et la valeur personnelle que l'auteur donnait à ces deux œuvres, et ce sera seulement plus tard, en 1966, qu'ils entreront dans les inventaires de l'Alcazar de Madrid et de là, donc, dans les collections royales. Bien différent sera le second voyage. Le second voyage qui durera de 49, de janvier 49, 49 à juin 51, donc presque deux ans. L'itinéraire de ce voyage n'est pas tout à fait différent par rapport à celui du premier. Alors, encore une fois, on arrive, on débarque à Gênes. Il y a un passage à Milan, de Milan à Venise, et puis la descente vers Rome. Ce qui manquait dans le premier voyage, je ne l'ai pas dit, c'était cette halte à Florence. Dans le premier voyage, vous l'avez peut-être remarqué, il ne s'était pas arrêté à Florence. Dans le second voyage, probablement oui, mais pas pour longtemps. Et c'est un peu bizarre. Venise, sans doute, c'est une halte obligatoire. Le goût vénitien de Velázquez et aussi de la peinture espagnole en général, des collectionneurs espagnols, était évident, mais pas le goût florentin et pas l'art florentin. Et puis, ce sera Rome, et encore une fois Naples, et encore une fois Rome. Cette fois-ci, il est venu avec une charge beaucoup plus importante. Il était presque ambassadeur du roi en Italie, ambassadeur culturel. Il est venu pour l'acquisition des œuvres d'art et des copies des statues. Il y a une documentation assez riche concernant ce second voyage. Cette fois-ci, il n'est pas accusé ou soupçonné d'être espion, mais sa présence dans la péninsule dérange un peu. Il y a plusieurs documents, une lettre par exemple du cardinal de la Cueva à son frère l'évêque de Malaga, qui dit que la présence de ce peintre qui fourre son nez un peu partout, qui veut acheter tant d'œuvres d'art, parfois se les faire même cadeau, dérange. Et on voit là presque une position de pouvoir de ce peintre ambassadeur d'un grand pouvoir qui était l'Espagne à l'époque, dans un contexte tendu, qui se comporte comme tel. Des statues, il en fera faire des copies en bronze. Je vous montre seulement un choix, le Germanicus, le Faun en repos, le Discobol et l'Hermaphrodite. Ce sont toutes des copies qui se trouvent maintenant en Espagne. Il veut acheter aussi des peintures. Il entre en négociation avec Pietro da Cortona pour qu'il vienne en Espagne. Pietro da Cortona a été, voilà, la gloire de la famille Barberini, une de ses grandes fresques du plafond du palais de Barberini. Pietro da Cortona a été un des grands peintres de fresques et la peinture à fresques manquait en Espagne. Et le roi voulait beaucoup avoir des grands artistes, pourquoi pas italiens, ou surtout des Italiens, qui puissent contribuer donc dans cet art dans lequel, en Espagne encore, il n'y avait pas de grandes personnalités. Il va acheter des tableaux, je vous en montre deux. Pardon. les œuvres de Tintoret. Je pense que ces œuvres qui se trouvent maintenant à Madrid sont exposées dans l'exposition Tintoret du Palais de Luxembourg, que vous avez peut-être déjà vu. En plus, il aura des contacts avec des peintres italiens, surtout avec ces journaux à Rome. Une activité riche, sans doute, mission royale, achat des œuvres, copies, diplomatie artistique, une activité riche qui lui laissa néanmoins le temps pour la peinture propre. La belle Vénus de Londres est probablement le tableau le plus personnel de ce séjour romain de Velázquez. C'est un des plus beaux nus féminins de toute l'histoire de la peinture. Et si on tient compte du fait que la peinture de nu en Espagne n'était pas exactement un genre cultivé, le fait que Velázquez, une fois à Rome, réalise un tableau de ce genre devient significatif. La peinture des nus en Italie, et le nu, le corps humain en Italie, était depuis longtemps entré dans le grand panthéon de l'expression artistique, et même des mises en scène de ce genre où les reflets dans le miroir est essentiel viennent dans un certain sens de l'art vénitien. Alors le Titien avait abordé lui-même ce genre de représentation du corps féminin avec des jeux du miroir assez compliqués. Mais l'expérience italienne est beaucoup plus riche que celle-ci. Premièrement, il y a le fait que le nu de Velázquez montre seulement la partie, montre le corps féminin, la partie postérieure, avec ce jeu ingénieux du dévoilement du visage, pas directement, mais à travers le reflet dans le miroir. Donc ce n'est pas exactement ce que le Titien fait, mais c'est une glose, si vous voulez, c'est un travail dans le sens du Titien, mais avec une toute autre attention en ce qui concerne la ligne du corps féminin. Mais je disais que l'expérience italienne qui peut se lire derrière la Vénus de Velázquez, c'est beaucoup plus riche que Titien, peut-être encore une fois le Tintoret, avec le déploiement des nus féminins sur l'horizontale, aurait pu dire son nom, ou aussi une certaine influence qui vient de la contemplation des statues, justement d'une partie des statues qu'il avait contemplées et œuvrées pour qu'elles soient copiées, comme par exemple l'hermaphrodite Borghese. Tableau tout à fait unique dans l'histoire de la peinture et encore plus dans l'itinéraire de Velázquez a été très commenté, de plusieurs façons. On cite toujours l'événement malheureux qui est arrivé en 1914. Le voilà, lorsqu'une suffragette indignée, qui sait pourquoi, de la présence de ce nu féminin entre dans la Galerie nationale de Londres et inflige des coups de couteau, des couteaux de boucher, disent les documents. Elle a été arrêtée tout de suite, le tableau a été sévèrement endommagé, restauré. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'une bonne restauration. Mais le La présence de cette œuvre exceptionnelle dans le catalogue de Velázquez a engendré beaucoup de spéculations. C'était presque normal, sur la vie érotique du peintre en Italie. Est-ce qu'il s'agit ici de sa maîtresse ou d'une de sa maîtresse? On parle de la liaison avec une femme peintre, du nom Flaminia Triumphi. Est-ce que cette liaison a un certain rôle dans la réalisation de ce portrait? On sait que Velázquez, pendant ce second séjour romain, aurait eu un fils, Antonio, né en 1651, mais on sait que sa mère s'appelait vraisemblablement Marta, donc pas Flaminia, donc là il y a un peu d'incertitude. Et par manque de documents, mais moi je dirais aussi par discrétion vis-à-vis de la vie personnelle d'un peintre, je préfère m'arrêter ici. En revanche, nous disposons de toute une série de portraits de Velázquez que Velázquez réalisa à Rome, une série de portraits bien documentés qui témoignent de la maîtrise de l'art du portrait. Maintenant, à son sommet. Probablement le portrait le plus célèbre dans ce contexte est celui-ci, le portrait du pape Innocence X. Et c'est sur les enjeux de ce portrait que je voudrais m'arrêter d'une façon un peu plus analytique. Pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais parce qu'en effet, on voit dans ce contexte ce peintre, ambassadeur artistique, culturel du roi, à la cour papale, réalisant le portrait d'un pape, donc devant un problème qui n'est pas seulement un problème artistique, mais un problème de politique culturelle. Et je voudrais approfondir justement cet aspect qui est assez riche. Alors, dans ce portrait réalisé en 1650, on voit le pape assis sur un trône, représenté seulement dans la partie supérieure, à partir des genoux. Le fauteuil lui-même, c'est un fauteuil à galons, à fleurons d'or. Il est habillé d'une aube blanche. Il a un manteau rouge court. Tout ça fait partie du vestimentaire papal. Il a ce bonnet rouge qu'on appelle Camauro et toutes les études faites à propos du rituel des audiences papales et aussi du rituel vestimentaire à la cour papale montre en effet que le pape est représenté ici dans ce qu'on appelait à l'époque abito di udienza, donc le vêtement pour les audiences. Je reviens tout de suite sur cette focalisation assez spéciale du portrait papal. Mais avant de le faire, quelques mots sur la tradition du portrait du pape. C'est pas Velázquez qui l'a inventé. On connaît des précédents tout à fait célèbres. Raphaël, par exemple, qui représente Jules II, âgé. Plus ou moins dans la même position, assis sur le trône. Il y a des différences frappantes aussi. Et parmi ces différences frappantes, la force du regard, la direction du regard et la force du regard. Donc le pape de Raphaël, c'est un pape fatigué. Par contre, Innocence X semble donc dans toutes les facultés de son pouvoir et il fixe le spectateur avec un regard assez puissant. D'autres précédents qu'on peut citer, qu'on cite d'habitude, le Titien qui représente Paul III. Encore une fois ici, des différences importantes. C'est bien possible que Velázquez se soit confronté avec la tradition du portrait papal, comment elle fonctionnait en Italie, mais de toute façon, il apporte quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, la nouveauté encore plus difficile à cause du fait que le modèle, le pape, était connu d'avoir une physionomie assez, comment vous dire, assez ingrate. Il était laid. Tozzo di faccia e rustico di azioni, disait le document. Donc même son comportement était brutal. Più di forme di volto che fosse mai nato tra gli uomini. Alors, faire un portrait d'un modèle comme celui-ci, ce n'était pas exactement une tâche difficile, d'où aussi cette exclamation qui est entrée dans la légende velasquienne du pape. Lorsqu'il aurait vu ce portrait, il aurait dit « troppo vero, troppo vero ». Et en effet, des études montrent comment la construction du visage est passée par des phases successives et comment cette vérité de la représentation fut un des buts de l'acte pictural. Un second aspect sur lequel je voudrais m'arrêter, justement dans cette lecture assez analytique que je vous propose, concerne un élément qui peut sembler étrange, mais qui couvre une certaine importance dans ce contexte, la signature du peintre. Alors, Velázquez ne signait pas toujours, plutôt très rarement, ses œuvres d'art. Elles sont rares. Il n'est pas le seul qui signe de temps en temps. Il y a d'autres artistes de l'époque, Rubens par exemple, on le sait, signait très rarement. On sait, et Karin Helving a fait une belle statistique à propos de Velázquez, que d'approximativement 120 œuvres, 13 sont documentées comme signées. De ces 13, 10 se sont conservées, dont seulement 6 sont vraiment des originaux. Alors, vous voyez que la signature est un problème spécial. La signature en soi-même est un problème de prise de conscience de la part de l'artiste de l'œuvre qu'il fait. Lorsqu'on signe, la conscience de l'appartenance, enfin de l'octorialité, est mise en avant. Le fait que chez Velázquez, il y a très peu de signatures, montre quelque chose. À ces signatures rares, il faut ajouter aussi certains cartellini. Cartellini, c'était une façon de signer sur une feuille de papier en trompe-l'œil. Je vous les montre toujours, tout de suite. Des cartellini, il y a des œuvres où il y a ces feuilles qui auraient dû être le support d'une signature, mais qui sont restées sans signature. On peut se demander pourquoi. Alors, ce genre de cartellini, vous le voyez ici, à gauche, en bas, c'est le portrait équestre de Philippe IV. Un autre cartellini sans signature se trouve dans la reddition de Breda. Par contre, il y a d'autres œuvres où la signature est apposée d'une façon spéciale, notamment sur une lettre. Le cas le plus éclatant est ce portrait de Philippe IV qui se trouve à Londres, à la National Gallery. À cause de l'habillement, il est connu aussi sous le nom de Silver Philip. Ici, la signature est centrale. Et je m'arrête un peu sur cet exemple pour revenir après à la signature du peintre dans le portrait du pape. Encore une fois, signer une œuvre d'art et signer surtout une œuvre d'art qui représente un roi ou un pape, hein, c'est pas n'importe quoi. Dans ce cas, et vous voyez ici un détail, la signature dit le suivant: Señor Diego Velázquez, pintor de V. Vuestra Majestà. Bon, c'est une signature un peu spéciale, parce que ce qui manque ici par rapport aux signatures traditionnelles, c'est le mot de l'action, le pingsit, ou pingebat, ou fekit, ou fakiebat. On ne dit pas que ce Señor Diego Velázquez aurait été aussi l'auteur. Sur une lettre dans la main du monarque, on a ici plutôt le nom de l'auteur dans une relation personnelle. Il est le peintre de Sa Majesté, donc l'activité de peintre, ou le rang de peintre royal est mis en avant, mais pas exactement l'action. D'où aussi les hypothèses qu'il s'agirait ici d'une pétition que Velázquez aurait glissée d'une façon plus ou moins adroite dans ce portrait pour obtenir quelque chose de la part du roi. Le second exemple de signature sur une lettre est justement celle-ci. Par rapport à ce qu'on a vu au Silva Philip, cette signature sur lettre a perdu un peu de sa centralité, mais elle reste une pièce importante de ce qu'on pourrait appeler un dispositif de pouvoir. Alors, regardons encore une fois la façon dont Velázquez se projette d'une façon nominale dans ce portrait, dans le contexte de cette représentation, qui est une représentation du pouvoir. Le regard, on en parlait déjà, la droite avec l'anneau pastoral, la gauche avec la lettre signature. Lettre signature en cursif, dans un italien un peu macaronique, je vous le cite comme il est, à la santa di nostro signore Innocenzo X, per Diego de Silva Velázquez della Camera de Sua Maestà Cattolica. Là, il y a aussi le roi, donc Velázquez, comme relais entre le pape et le roi. Velázquez était homme de chambre, donc représentant du pouvoir royal des Habsbourg à la cour papale. Donc là, il y a une mise en scène de l'artiste lui-même, on pourrait dire, dans sa valeur d'ambassadeur, peintre, en faisant de relais entre ces deux mondes. Encore une fois, une pétition, qui le sait. Le destinataire serait, dans ce cas, le pape, l'expéditeur Velázquez. Ce qui me semble important, c'est que par cette insertion, le simple portrait du pape change un peu de direction. Il y a quelque chose de narratif. Donc, le portrait du pape est engagé dans un petit récit. Et la séance de pause et le scénario d'audience, par exemple, d'audience personnelle, se croisent. Voilà. On peut comparer encore une fois les deux signatures. En conclusion, on pourrait dire que le portrait du pape, comme dispositif diplomatique, est un dispositif diplomatique dont le peintre, plus que peintre, outre que peintre, est membre en tant que représentant d'un jeu du pouvoir. En quoi exactement consiste le pouvoir spécifique de ce Diego da Silva Velázquez de la Camera de Sua Maestà Cattolica? En a-t-il un pouvoir spécifique en tant que peintre? Pour répondre à cette question, il faudra considérer une seconde œuvre majeure réalisée à Rome. Celle-ci, c'est l'œuvre qui représente le portrait de l'esclave Juan de Pareja. Ce sont deux œuvres, d'où aussi le titre que j'avais proposé à cette leçon Velázquez, Le pape, l'esclave. Ce sont deux œuvres, le portrait du pape et le portrait de l'esclave, qui se trouvent dans une relation très étroite. Et je voudrais insister un peu, décortiquer un peu cette relation. Alors, Pareja, on le sait, était oui, l'esclave, on était encore à une époque où on avait l'esclave de Velázquez, il était venu avec lui depuis l'Espagne. Et Palomino, donc le biographe le mieux informé des biographes de Velázquez, nous en donne le récit, un récit qui tourne vers la mythologie artistique, comme très souvent à l'époque, chez Vasari aussi, donc les biographies d'artistes débouchent très facilement dans une mythologie d'artistes. Alors, voilà ce que Palomino dit, et je vous donne une citation un peu plus longue. Lorsqu'il décida de faire le portrait du Saint-Père, il, c'est-à-dire Velázquez, voulut s'exercer en réalisant une tête d'après nature. Il fit celle de Juan Pareja, son esclave et peintre doué. Il la fit tellement ressemblante et vivante que l'ayant envoyé avec le même Pareja pour le présenter au jugement de certains de ses amis, ceux-ci commencèrent à contempler avec admiration et étonnement tantôt le portrait, tantôt l'original, sans pouvoir décider à qui il devait en réalité parler et qui devait le répondre. De ce portrait qui était à mi-corps et réalisé selon le modèle vivant, Andreas Schmidt, peintre flamand à notre cour, mais qui se trouvait à l'époque à Rome, raconte la chose suivante. Comme il était de coutume que le jour de Saint-Joseph, on décore le cloître de la rotonde où se trouve enterré Raphaël d'Urbain. La rotonde, c'est le panthéon de Rome, où se trouve enterré Raphaël d'Urbain, avec des peintres de qualité, avec des peintures de qualité, tant anciennes que modernes. On exposa ce portrait dans cet endroit, et il connut un tel succès que, selon l'opinion unanime de tous les peintres des différentes nations, tout ce qu'on pouvait voir là était de la peinture, sauf ce portrait qui était la vérité elle-même. Grâce à cela, Velázquez fut reçu comme membre de l'Académie romaine en l'an 1650. Alors, si on soumet ce texte de Palomino à une lecture approfondie, on remarquera d'emblée que le biographe attribue au portrait de l'esclave une double origine, ou du moins une double fonction, puisqu'il s'agit d'un exercice de style en vue de la réalisation d'un chef-d'œuvre, le portrait d'Innocence X. Question à propos de ce fait, pourquoi est-ce que Pareja, et non pas un autre portrait du giron papal, aurait recouvert cette fonction? Parce qu'en effet, on sait que Velázquez, au Vatican, a fait plusieurs portraits des gens qui étaient autour du pape, le cardinal Pamphili par exemple, Camillo Massimo qui était le camérier du pape, le barbier du pape qui avait le joli nom de Michel-Ange, vous le voyez à droite. Donc ce n'était pas nécessaire justement de s'exercer sur le portrait d'un esclave. Alors là, il y a déjà des aspects dialectiques qui attire l'attention. On peut penser à un récit inventé par le biographe, mais il met en entredit aussi une évidence documentaire. On sait par exemple, en effet, par d'autres documents, que Velázquez devint membre de l'Académie de Saint-Luc de Rome en janvier 1650, et en février de la même année, il entre dans la congrégation des Victoires et del Panthéon. Le 19 mars, il participe à l'exposition annuelle de la congrégation. Le 13 août, il bénéficia d'une séance de pause du pape au Quirinal. Donc il y a un enchaînement entre la réalisation du portrait de l'esclave, le peu de séances de pause du pape et la réalisation du portrait papal. Pour bien comprendre l'enjeu de cette corrélation entre les deux œuvres, il faut rappeler la définition du portrait telle qu'elle se présentait au temps de Velázquez. Et je vous donne la définition la plus utilisée à l'époque, celle de Sébastien de Covarrubias, de son Tesoro de la lingua castellana, qui dit « portrait, deux points, image reproduisant une personne de rang et importante dont il est juste que l'effigie et la ressemblance durent pour la mémoire des siècles à venir. » Alors on comprend bien qu'un portrait d'esclave était, dans ce contexte, un objet, on pourrait dire, idéologiquement parlant, paradoxal, et qui avait absolument besoin d'une justification. D'autant plus que le tableau en cause ne laissait en aucune manière entrevoir le statut social modeste du portraituré. Il y a une certaine fierté de la pose. Même l'habillement était un habillement qui n'était pas des plus modestes possible. Il n'est donc pas difficile de discerner à ce premier niveau de la légende une opposition en filigrane entre la modestie du modèle de ce tableau essai, un esclave, et la grandeur de celui du tableau final, le pape. Cette opposition ne fait pourtant que préparer l'entrée en scène de la seconde fonction du tableau, qui est aussi sa fonction essentielle, celle de pièce de démonstration. Dans le passage de l'exercice pictural, qui est la première caractéristique du portrait velasquien, au prodige pictural, seconde et plus importante caractéristique, on a la preuve que le discours de Palomino, donc du biographe, se place désormais de façon irrévocable sur le plan, on pourrait dire, d'une religion de l'art, dont il nous fournit d'ailleurs les principales coordonnées. Deux espaces forment en effet la scène de cette légende, l'espace de la Genèse, disons l'atelier du peintre, et l'espace de l'exposition, le Panthéon. Ce dernier est, mais seulement en apparence, un lieu en marge des idéologies, un lieu purement esthétique. Les images qui s'y exposent, on le sait, sont jugées par des peintres, Palomino le dit d'ailleurs, et exclusivement au nom de la peinture. C'est également un espace sacré, puisque s'organise autour du tombeau de Raphaël, prince des peintres, et se trouve au croisement d'un axe historique. On peut en effet y contempler, disait Palomino, des pinturas insignes et antiguas, c'est moderne, et un axe universaliste. Alors, vous vous rappelez la citation, tous les peintres des différentes nations honorent l'œuvre de Velázquez avec cet universal applauso, comme dit le biographe. Parmi les faits historiquement prouvés, on sait que Velázquez fut accepté dans la Congrégation des Virtuosi del Panthéon en février 1650 et qu'il eut par conséquent le droit d'exposer ce portrait dans le portique de Santa Maria Rotonda, le Panthéon, en mars. Le biographe ne retient que celui qui convient le mieux, bouleversant la chronologie et accentuant ce qui, dans cette histoire, pouvait déboucher sur un mythe. C'est donc dans le giron de ce temple de la peinture, placé au cœur de la ville éternelle que Velázquez et son portrait d'esclave triomphent. Ici encore, l'antithèse est manifeste entre l'amplitude de l'apothéose et l'objet de la représentation, mais il faut sans doute tenir compte du fait que toute idéologie est apparemment au moins exclue de cet espace au nom de l'art et de son critère suprême, la ressemblance. Vous l'avez vu aussi dans la façon dont Palomino racontait la perplexité de ceux qui avaient vu pour la première fois ce tableau. Alors, si comme toute légende, celle du triomphe remporté par Velázquez grâce à un portrait d'esclave se construit sur la base de faits réels, il faut se demander quelle est la signification de la double présentation du portrait et de son modèle mentionné par Palomino. Alors, vous vous rappelez, Velázquez envoie son esclave porter son portrait avec lui au Panthéon. Si cet épisode contient une once de vérité, cela signifie que la manipulation Velázquez du critère de ressemblance atteint ici un sommet difficilement surpassable. Il faut en déceler tous les méandres. Au premier niveau se situe le tableau lui-même, avec sa liberté de touche, et la merveilleuse spontanéité de l'exécution qui font que par sa seule présence, le modèle, pour dire comme ça, crève la toile. Le second niveau se constitue en référence de l'anecdote rapportée dans le texte hagiographique de Palomino. En effet, considéré dans le contexte de la culture figurative de la mimésis à laquelle Velázquez se rattache, ce quiproquo que le biographe évoque n'est pas en soi quelque chose de très nouveau. Dans la littérature artistique occidentale, ce genre d'anecdotes concernant le jeu entre l'image et la réalité sont légion, et c'est le même auteur qui nous en donne un exemple dans la même page de la vie de Velázquez, mais à propos du portrait du pape. Citation de Palomino. On raconte de celui-ci qu'après que Velázquez l'ait terminé et après qu'on l'ait installé dans une pièce du palais papal qui voisinait l'antichambre des audiences, le valet de chambre de sa sainteté y entra et voyant le portrait dans un demi-jour et pensant qu'il s'agissait de l'original, sortit de nouveau pour dire au courtisan qui se trouvait dans l'antichambre de parler plus bas puisque sa sainteté se trouvait dans la pièce à côté. Alors, la réitération du même topos, celui du portrait trompeur sur la même page, suffit de mettre en évidence les différences entre le portrait du pape et celui de Pareja, réalisés tous les deux selon les impératifs de la parfaite ressemblance. Le portrait du pape, doit-on comprendre, trompe, et un timide, un valet, in absentia, il a un caractère de double de la personne et représente le pape. Il est le pape en son absence. Le portrait de Pareja n'intimide personne. Ce n'est pas une représentation de pouvoir. Mais il laisse perplexe, assombra, dit le texte. Il laisse perplexe qui, le peintre, dont des spectateurs privilégiés et non des valets naïvement abusés par un éclairage imparfait en raison d'une ressemblance qui se révèle, cette fois-ci, in presentia. Si Velázquez a réellement escompté l'effet obtenu, comme le suggère Palomino, cela signifie qu'on se trouve ici devant un jeu conceptiste, baroque, habilement orchestré par le peintre espagnol. Donc, le génie, l'ingénio, est d'ailleurs à maintes reprises loué par le même biographe. Il aurait donc, je reviens à cette mise en scène, il aurait donc envoyé le vrai Pareja, mais habillé, on s'en doute exactement, comme dans le portrait, accompagné, conduire sa propre image un concours exposition qui devait juger sur sa ressemblance. Alors, le pareja encadré, donc le tableau, était donc transporté par un pareja hors cadre, et même en poussant le conceptisme encore plus loin, et en tenant compte des significations possibles du jeu de mots en espagnol, on peut entendre que les deux formaient un binôme, un couple, une paire, ce qu'on dit en espagnol pareja, c'est une paire, dans laquelle on avait de la peine à discerner qui est qui. Ce ne sont sans doute ici que des pures conjectures, mais celles-ci, dans le contexte évoqué par le biographe, ne sont pas dépourvues d'une certaine signification, car l'expérience ludique que Velázquez aurait proposée à ses amis romains n'est pas tout à fait isolée. En effet, nous sommes à Rome en 1650. Et seulement 2 ans auparavant, le 2 août 1648, Poussin, qui habitait Rome lui aussi depuis longtemps, se plaignait dans une lettre célèbre de la décadence de l'art du fait que les meilleurs portraits qu'on pouvait rencontrer dans cette ville étaient, dit cette lettre à Chanteloup, auraient été froids, pilés, fardés, sans aucune facilité ni vigueur. C'est l'expression de Poussin. Et c'est la raison pour laquelle le peintre français, qui se journait depuis longtemps dans la cité éternelle, décida, pour exaucer justement les vœux de son ami et mécène Chanteloup, qui est le même Chanteloup qui avait accompagné Bernini à Paris, de faire lui-même son portrait, plutôt que de se faire peindre par quelqu'un d'autre. Et le résultat sera ce fameux autoportrait de Poussin. L'histoire du tableau, vous le voyez au centre, est connue et sa morale aussi. Ce portrait terminé justement en 1650, on est la même année avec les parejas de Velázquez, est plus qu'un portrait. C'est Poussin lui-même, sorti du tableau, se tenant devant la toile, un Poussin vivant qui projette son double d'ombre sur la toile vide qui lui sert de fond justement à l'endroit où est inscrit en grande capitale son nom, vous le voyez, Effigies Nicolae Poussini Andeliensis Pictoris. Entre le ludisme de Poussin et celui de Velázquez, il y a sans doute des points communs. Ce n'est pas difficile d'imaginer des contacts entre ces deux peintres étrangers séjournant à Rome en 1650. On le sait qu'ils habitaient dans le même quartier, probablement à un certain moment où un d'entre eux avait pris même la même habitation de l'autre, donc probablement les contacts entre les deux peintres étrangers, les deux à Rome, sont plus que probables. Ce qui me semble plus significatif est le fait que ces deux peintres signent les tentatives les plus avancées, mais néanmoins les plus divergentes, conduisant la représentation par ressemblance au plus haut degré de sa propre mise en scène. L'apothéose du portrait exposé par Velázquez au Panthéon de Rome, pour revenir à lui, est le symptôme d'une nouvelle religion de l'art, de la ressemblance, qui fait que même un esclave peut être objet d'une image célébrée et célèbre. Cette première légende est centrée presque entièrement sur la mythification de la figure de Velázquez et indirectement seulement sur celle du portrait prodigieux. Je m'arrête ici en vous remerciant de m'avoir accompagné pendant ces 8 leçons. Il y aura une leçon de clôture de ce cycle consacré à la chaire européenne. La leçon de clôture aura lieu le 4 juin, mais on n'a pas terminé pour aujourd'hui parce que, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir un invité, cette fois-ci Guillaume Kintz, qui est conservateur de la peinture espagnole, portugaise, latino-américaine au Louvre, auteur, commissaire d'une très très belle exposition sur Velázquez, 2015, au Grand Palais, qui a été accompagnée pour une monographie sur le même peintre. Alors, je suis très content que Guillaume Kintz a accepté d'être là. Je lui donne la parole avec le plaisir de pouvoir discuter un peu avec lui de nos propres vues concernant ce peintre espagnol. Guillaume.